Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Célia Medjkou. J'ai fait tout mon parcours ici en psychologie à Caen et j'ai fait le master enfant ado famille. Et actuellement, je travaille à l'unité médico-judiciaire de Cherbourg, mais aussi de Caen au CHU. À l'unité médico-judiciaire, on accueille principalement, nous en tant que psychologues, des victimes mineures ou majeures de tout type de violence, qu'elles soient sexuelles, physiques, économiques, administratives, etc. Moi, c'est Laurine Audion, pardon, psychologue du coup en pédopsychiatrie à Flers, plutôt sur les services du CMPEA. Le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, où on accueille des jeunes et leurs familles, pour les jeunes de 4 ans à 18 ans, pour tout type de problématiques, avec des prises en charge plutôt sur le moyen long terme. Et je travaille aussi sur l'équipe mobile adolescente à Flers, où là, on est plutôt sur un accompagnement des jeunes et de leurs familles encore de 11 à 18 ans sur des crises. Type des crises suicidaires, des compensations, tout type de crise. Et là, on est plutôt sur des prises en charge court terme, moyen terme. Nous, le sujet qu'on nous a demandé de traiter, c'est les risques auxquels les enfants vivant dans un contexte de violence conjugale sont exposés et la manière dont cela peut impacter leur développement. On a décidé de faire une première partie théorique assez rapide parce qu'on s'était dit qu'il y aurait plusieurs intervenants sur la partie théorique. Et on a surtout insisté en fait sur une étude de cas un peu transversale puisqu'on va partir de l'UMJ pour arriver à la prise en charge de Lucas. Qu'est-ce que c'est que les violences conjugales? Alors finalement, les violences conjugales, c'est un ensemble de violences physiques, psychologiques, sexuelles, administratives, économiques et verbales. On l'a vu juste avant, qui sont commises au sein du couple par le conjoint ou le partenaire de PACS ou du non-lit. Il n'y a pas besoin d'être marié pour qu'on puisse parler de violence conjugale. C'est pareil, quand on vient de se séparer et qu'on harcèle son ex, en fait, ce sont quand même des violences conjugales. On n'a pas besoin d'être encore en couple. Les conflits conjugaux, ils sont à différencier des violences conjugales. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi avant, c'est-à-dire que le conflit, c'est vraiment une tension, une opposition, mais où il y a une relation qui est égalitaire. Par contre, quand il y a des violences conjugales, il va vraiment y avoir une domination d'un des partenaires sur l'autre, avec des relations, enfin des positions qui sont vraiment figées avec un auteur et une victime. On sait que les violences conjugales vont vraiment suivre un cycle. Ça, c'est pareil, on l'a vu juste avant. Ce cycle, il est divisé en quatre phases. Il y a la première phase qui est le climat de tension, où l'auteur, il va avoir des propos, des attitudes qui vont générer finalement une tension au sein du système familial et la victime qui va vraiment être inquiète, qui va craindre finalement un passage à l'acte. On a la deuxième phase où il y a ce fameux passage à l'acte avec une explosion de violence de la part de l'auteur et la victime qui va vraiment se sentir impuissante, qui va avoir un sentiment de honte, d'humiliation. Et on va ensuite aller jusqu'à la troisième phase, qui est la phase de justification, où là, l'auteur, il va justifier son comportement, il va trouver des excuses et il va minimiser finalement l'importance, des violences et de son passage à l'acte. La victime, elle va chercher à comprendre, elle va pardonner, culpabiliser. Et ensuite, on en arrive du coup à la phase de lune de miel, où là, l'auteur, il est très attentionné, il demande pardon, il parle de thérapie, il promet qu'il va pas recommencer. Et la victime, elle va donner une nouvelle chance. Elle pense que cet épisode, en fait, c'est le dernier. Et on repasse sur un climat de tension et on est reparti sur un cycle. Plus le temps avance et plus, en fait, ce cycle, il diminue et plus on arrive du climat de tension à l'explosion de violence, en fait, ça accélère. On a, comme le disait juste avant, moins finalement les phases de justification et de lune de miel. Voilà, donc ça c'était sur tout ce qui était violence conjugale. On a essayé de faire succinct parce qu'on s'était dit que ça allait être pas mal traité. Et on va vous parler maintenant des enfants finalement dans le couple.
Nous, on s'est plutôt focalisé en prenant la vision et en reprenant du coup le décret du 23 novembre 2021, qui prévoit que si la présence d'un mineur est avérée lorsque les violences sont commises au sein du couple, alors l'enfant peut se constituer partie civile et non plus comme témoin en cas de jugement. Mais du coup, ce qui est important, c'est que maintenant l'enfant est bien considéré comme une victime des violences conjugales et non témoin. Et c'est de ce constat-là, en fait, qu'on repart et on prend en compte que le positionnement de l'enfant, en fait, au sein de la dynamique familiale dans un contexte de violence conjugale, peut avoir différents rôles. Et nous, on reprend un peu le positionnement de l'enfant, les sept rôles qu'il peut prendre de Madame Sablier. Donc, on peut retrouver le rôle du petit parent, où l'enfant se place en protecteur. Cela va induire une autonomie et une responsabilité prématurée de cet enfant. Et il va avoir plutôt tendance à être sujet aux troubles anxieux et dépressifs. On a aussi le rôle du petit agresseur, où là, l'enfant est contraint, influencé par l'auteur, à agresser lui aussi le parent victime. Donc là, il y a plutôt un processus d'identification à l'agresseur qui se fait, avec des passages à l'acte violent qui sont possibles. On a aussi le rôle de confident de la victime, donc là où l'enfant s'oppose au déni et aux minimisations de l'agresseur, et peut amener à perdre confiance en la stabilité du positionnement de l'adulte. On peut retrouver aussi le rôle du confident de l'agresseur, où là l'agresseur récompense l'enfant avec des privilèges ou avec l'absence de mauvais traitements. Il y a un risque pour cet enfant-là de grands sentiments de culpabilité vis-à-vis du parent victime, mais il peut aussi gérer son angoisse en s'identifiant au parent agresseur. On a aussi du coup l'enfant modèle qui, lui, il va tenter de prévenir la violence au sein de la famille. Sa souffrance anxio-dépressive peut passer inaperçue en raison d'une présentation sociale hyper adaptée. On a aussi le rôle d'enfant arbitre qui, lui, va prévenir la violence au sein de la famille et il va demander aux parents victimes, au travers de ses comportements, de se montrer encore plus soumis afin de ne pas agacer l'agresseur. Et le dernier rôle, c'est l'enfant bouc émissaire qui, lui, du coup, va être désigné par la famille et par le couple parental comme la cause des tensions familiales. Donc, on vous cite ces sept rôles-là, mais en fait, ils ne sont pas rigides. Ils peuvent évoluer au fur et à mesure du développement de l'enfant. Et dans une fratrie, il peut y avoir plusieurs rôles et ils peuvent bouger en fonction de la dynamique familiale.
Donc, on vous a évoqué finalement les différents positionnements que peut prendre l'enfant dans le cadre des violences conjugales. Et on arrive un petit peu sur la partie théorique, cœur du sujet de notre problématique, qui sont les facteurs de risque. Donc, la liste que l'on vous a faite, là, clairement, en 10 minutes, en fait, ce n'était pas possible de vous faire une grande, grande liste. Donc, on a pris les points qu'on peut retrouver le plus facilement en tant que professionnel. Sachant que les risques, ils ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, avant la naissance, il y a un risque élevé de fausse couche, un risque de décès néonatal, un accouchement prématuré, une souffrance fœtale ou une hypersensibilité au stress.
De la naissance de l'enfant jusqu'à ses 2 ans, donc on peut plutôt retrouver des retards staturo-pondéraux, des pleurs excessifs, une perturbation de l'alimentation et du sommeil, une hyperadaptation de son comportement, des perturbations concernant l'attachement à ses figures d'attachement, à ses parents, et des retards dans les acquisitions, qu'elles soient langagères ou motrices.
Entre 3 et 5 ans, on peut retrouver une énurésie ou une encoprésie, une anxiété, un sentiment de colère ou un sentiment de peur, une régulation inadaptée des émotions, une hypervigilance, une déficience verbale et ou intellectuelle et des difficultés de séparation.
Entre 6 et 11 ans, il y a plus de risques d'avoir un impact négatif sur l'estime de soi pour ces enfants. Un retrait émotionnel est possible. Un comportement de perfectionnisme aussi peut se mettre en place. On peut retrouver des énurésies ou des encoprésies secondaires. Des mauvais résultats scolaires qui peuvent être entraînés par tout ça. Une crainte d'être victime ou d'être plus facilement abandonné par les autres. Un sentiment d'être responsable ou de devoir intervenir quand il y a des conflits. Une conviction aussi stéréotypée sur les sexes, lorsque les parents sont hétérosexuels. Et un comportement dans la séduction vis-à-vis des autres.
Entre 12 ans et 18 ans, on va pouvoir retrouver des actes agressifs, de la délinquance. On peut aussi retrouver des comportements à risque, donc vraiment sur toutes les sphères, que ce soit de la drogue, de l'alcool, des scarifications, des fugues, mais aussi des comportements à risque dans la sexualité, donc avec des rapports qui ne sont pas protégés ou multipliés. Un risque de grossesse précoce ou de la prostitution. On peut retrouver aussi des difficultés scolaires avec une baisse des résultats, mais ça peut aussi entraîner un absentéisme plus important, voire un décrochage scolaire, de la délinquance, de la dépression et aussi des passages à l'acte suicidaire.
Donc en fait, nous, il était important de pouvoir dire que dans les violences conjugales, elles ont forcément un impact sur l'enfant et elles impactent les différentes sphères du développement, donc qu'elles soient cognitives, physiques ou affectives. Ce sont très régulièrement des enfants ou des ados qui ont des troubles du comportement ainsi qu'un attachement de type insécure au minima. aussi, forcément, elles ont ces impacts-là, ils sont différents en fonction de la situation, de l'âge de l'enfant, des ressources environnementales de cet enfant, des ressources familiales autour. Et bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et il n'y a pas besoin d'avoir tous les critères pour s'inquiéter en tant que professionnel. Certains suffisent déjà à rester alarmés.
Donc, on voulait vous proposer, quand vous récupérez le diapo, un petit schéma qui reprend l'enfant victime des violences dans le couple. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est finalement les violences dans le couple, elles vont créer de toute façon un climat de terreur au sein de la maison, au sein du domicile. Et ce climat-là va entraîner forcément, en fait, des impacts sur l'enfant qui sera différent en fonction de son âge, comme on vient de le voir avant. Le mode de parentalité, il est inadapté, en fait. Bien souvent, il y a peu de coparentalité et il y a quand même... un risque d'instrumentalisation de l'enfant, comme on l'a vu avant, voire un conflit de loyauté en fait, chez les enfants. Ça a aussi un impact sur l'autonomie, sur la socialisation, mais aussi on peut parler parfois de traumatisme. Il peut y avoir en fait, des symptômes d'allure post-traumatique, et ça, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer en fait, avec l'étude de cas juste après. Donc nous, on a choisi de faire une étude de cas en fait, qui allait être transversale entre nos deux services. Donc Lucas, on a choisi Lucas, qui est âgé de 7 ans et qui est en CP. Nous, à l'unité médico-judiciaire, une des missions des psychologues, c'est d'accueillir l'enfant en fait, au moment de ses révélations. En gros, on a une salle d'audition avec un dispositif d'enregistrement in vitro sans teint et on accompagne les enfants au moment de leur révélation à l'enquêteur, donc que ce soit police ou gendarmerie, même si c'est... Nous, en tout cas, à Caen, c'est beaucoup plus la gendarmerie. Donc, l'idée pour nous, en tant que psychologue, c'est vraiment de faire un entretien avec l'enfant avant et après pour s'assurer aussi qu'il est en capacité de réaliser cette audition, en capacité de verbaliser ce qui lui arrive et aussi d'essayer, en fait, de relever des symptômes et pouvoir ensuite proposer une orientation. Donc, nous, on accueille Lucas puisqu'il y a eu un signalement qui a été rédigé par l'école. Et les professionnels se sont inquiétés de ses propos. Lucas, il dit « Papa a crié sur maman et maman a pleuré. J'ai mangé tout seul à table hier soir. Quand papa n'est pas content, il dispute maman. Papa, il a jeté l'assiette sur maman et ça a beaucoup saigné sur son bras. » Au-delà des propos qui sont inquiétants, les professionnels, ils observent aussi des comportements particuliers chez Lucas, avec notamment des crises de colère, des difficultés dans les apprentissages, pardon, des difficultés avec ses pairs, puisqu'en fait, il tape ses copains, une énurésie et une fatigue en classe. Donc, nous, on reçoit Lucas aujourd'hui dans le cadre de son audition et on va le chercher en salle d'attente. Il est accompagné par sa maman, Lucas. Ce que l'on voit au moment de la séparation, c'est que Lucas, il nous tend très rapidement la main. Il ne regarde pas sa mère au moment où il s'en va. Il lui adresse aucun mot, aucun regard. Donc déjà, nous, ça nous questionne un petit peu aussi sur son attachement qu'un enfant qui est dans un lieu inconnu, avec un adulte inconnu, puisse se séparer aussi facilement de sa maman. Et quand on arrive en salle d'audition, même si la séparation a été très facile, finalement, l'entrée en relation avec Lucas, elle est très compliquée puisqu'il est très agité. Il démonte les poufs, il tire sur les fauteuils, il joue avec la caméra. Bref, c'est compliqué de le canaliser. Néanmoins, l'enquêteur, puisqu'il est spécifiquement formé en fait, à rencontrer les enfants, il arrive à entrer en relation avec Lucas. Et Lucas arrive à dire qu'effectivement, à la maison, il y a des faits de violence conjugaux. Nous, ce que l'on remarque aujourd'hui avec Lucas, c'est des symptômes d'allure post-traumatique. C'est-à-dire que Lucas, aujourd'hui, pendant l'audition, il parle de reviviscence, où il dit des fois dans ma tête, j'entends papa crier sur maman et ça me donne mal au ventre. Il évoque aussi des jeux répétitifs où il peut nous dire qu'il prend ses Playmobil et qu'il les tape entre eux. Voilà. Des difficultés de régulation émotionnelle, à l'école je tape les copains, des cauchemars, des fois je rêve que papa il tape, une anxiété anticipatrice associée à des conduites d'évitement. Lucas dit quand papa boit l'apéro, j'ai peur qu'après il crie et je vais dans ma chambre. Un sentiment de peur important, une tristesse de l'humeur et des pleurs immotivés et une hypervigilance au bruit environnant. Ça c'est vraiment ce que l'on retrouve au moment de l'audition où en fait à chaque fois qu'il y a un bruit dans le couloir, Lucas il se fige et il écoute en fait ce qu'il se passe autour. Donc ça, nous, c'est des éléments qui nous inquiètent. Cette audition, finalement, ce passage à l'UMJ, il permet quand même de faire trace dans l'histoire de Lucas. C'est-à-dire que c'est un endroit où il a pu déposer finalement ce qui se passait à la maison. Et c'est aussi un endroit où les professionnels peuvent faire une orientation. C'est-à-dire que là, Lucas, il présente quand même des symptômes qui sont inquiétants. Donc nous, en fait, on préconise une orientation avec le CMP de secteur et en l'occurrence le CMPEA de Lorraine.
Donc pour qu'il y ait prise en charge au CMPEA, il faut déjà que les parents fassent une demande de prise en charge. Donc dans le cas de Lucas, c'est la maman qui contacte le CMPEA par téléphone et qui nous dit « L'UMJ m'a dit de vous appeler pour mon fils Lucas parce qu'il a des difficultés à l'école. » Donc on rebondit un petit peu aussi sur ce qu'avait pu dire la collègue avec des minimisations de la violence qui peut être faite, parce que nous, quand on entend « UMJ, difficultés à l'école », bon, forcément, ça tique un petit peu. Donc, il y a un entretien d'accueil qui est proposé, où là, il va nous permettre d'évaluer la symptomatologie et les difficultés rencontrées dans sa vie de tous les jours à Lucas. Et pour commencer, on fait une anamnèse, on reprend un petit peu son histoire. Donc, au niveau de la grossesse et de la naissance, il n'y a rien à signaler. Dans sa première année de vie, le sommeil est plutôt difficile pour Lucas. L'acquisition de la marche et du langage, il n'y a rien à dire. À ses 2 ans, par contre, il y a la naissance de son petit frère. À 3 ans, son père, à Lucas, il perd son travail suite à un accident du travail. Il est au chômage depuis, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et là, débute une consommation d'alcool excessive. C'est ce que peut nous dire la maman ou un petit peu Lucas au travers de ce qu'il nous dit. Et du coup, on peut imaginer les violences conjugales. De son côté, madame dit qu'elle, elle continue à travailler. Dans les symptômes actuels, l'alimentation pour Lucas est sélective, donc il ne mange pas de tout et il peut être difficile lors du repas. Au niveau du sommeil, donc il y a présence de cauchemars, des réveils en pleurs et du coup des difficultés d'endormissement, comme il a peur de faire des cauchemars. Au niveau de la scolarité, la maman peut nous dire qu'il y a des difficultés dans les apprentissages et qu'en fait, Lucas, il a déjà redoublé son CP, donc c'est son deuxième CP, et qu'il y aurait un dossier MDPH en cours. Au niveau des difficultés relationnelles, on peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup de bagarres avec les camarades. Et puis, à la maison, la maman arrive à nous dire aussi que bah, ça peut arriver que Lucas, il la tape. Au niveau de la dynamique familiale actuelle, monsieur, depuis l'audition à l'UMJ, aurait pris conscience de son addiction à l'alcool et aurait entamé des démarches de soins auprès du XAPA et de l'hôpital. Ce qui est important à dire et que je n'ai pas dit aussi, c'est que la maman de Lucas est venue seule avec Lucas, mais on a eu l'autorisation du papa pour l'accueillir, parce qu'en fait, nous sommes dans l'obligation pour avoir une prise en charge d'avoir l'autorisation des responsables légaux, sauf s'il y a un retrait de l'autorité parentale. Donc, suite à l'entretien d'accueil, l'équipe pluridisciplinaire au niveau du CMPEA décide, comme projet de soins, que Lucas va avoir des entretiens avec le psychologue du service, qu'il va y avoir un bilan orthophonique pour évaluer les difficultés des apprentissages, qu'il va y avoir un bilan psychomoteur pour pouvoir évaluer les difficultés dans ses relations aux autres, dans son rapport à son corps et dans les rapports au corps des autres. Donc là, on va plutôt, se focaliser sur la prise en charge psychologique. Donc, ce qui est important aussi pour moi de pouvoir rappeler, c'est que le psychologue, il a le choix des outils et de la pratique dont il va utiliser à partir du moment où ces méthodes sont adaptées à ses objectifs. Et comme l'outil principal le rappelle le code de déontologie, c'est aussi l'entretien, moi, je vais commencer par évaluer la situation par des entretiens où je vais rencontrer Lucas quand il va être tout seul, Lucas avec sa maman et Lucas avec son papa, si c'est possible, et des entretiens familiaux, si c'est possible. Donc, on va évaluer au travers de ces entretiens les symptômes d'allure post-traumatique et repérer aussi un petit peu bah, quel rôle il a, Lucas, dans cette famille. Donc, dans le cas de Lucas, il va plutôt prendre un rôle d'enfant arbitre ou de petit agresseur. Nos objectifs, avec ces hypothèses-là, ça va être d'essayer de rompre le cycle de la reproduction de la violence. Il est essentiel que l'enfant sache qu'il peut s'épanouir dans un contexte de sécurité et pour favoriser en fait, son bien-être. Pour cela, on va l'aider à reconnaître qu'est-ce que c'est la violence. Et pour ça, on va lui parler un petit peu de la violence. Et il y a des outils qui existent, avec par exemple le guide pour les professionnels, les mots pour le dire, où on peut reprendre avec des questionnements qu'est-ce que c'est la violence. On va aussi travailler les émotions, qu'est-ce que Lucas y ressent, qu'est-ce que ressentent les autres, avec des outils, par exemple la roue des émotions, des besoins, des photos, des jeux sur les émotions. On va travailler le sentiment de sécurité avec les enveloppes psychiques et physiques. On va utiliser un médiateur par le jeu symbolique, donc les Playmobil dans le cas de Lucas, parce qu'il aime bien ça, et on va reprendre des scènes de la vie quotidienne. On va faire du lien avec les partenaires pour qu'il y ait un sentiment de sécurité et travailler sur la parentalité avec les parents. Ça, c'est important. Si jamais il y a encore des conflits, on peut les réorienter vers un suivi qui leur est propre ou alors refaire une information préoccupante si jamais il y a encore des symptômes très forts.
Donc voilà, il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur le travail parental.
Donc il nous reste 20 secondes. L'idée de en fait, c'était vraiment de vous transmettre que la liste, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que les violences conjugales, ça a forcément un impact en fait, sur l'enfant et sur son développement, mais que l'impact, il est différent en fonction de l'âge, de la situation et des ressources aussi qui peuvent y avoir autour de la famille. La deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est que c'est important de travailler avec les partenaires. Un psychologue, ça travaille quand même peu seul, et c'est important aussi de pouvoir prendre en charge, notamment en fait, les situations de violence conjugale, de manière vraiment ouverte. Donc, Laurine a pu le proposer, donc oui, l'enfant, mais aussi les parents de manière individuelle, mais aussi au niveau du système familial. Et voilà, on va s'arrêter là.
Et donc aussi, ce qui était important pour nous de pouvoir, si vous avez accès au diaporama, c'est qu'on a retrouvé des outils qui sont développés en France pour les professionnels. Donc les mots pour le dire, comme ce que je vous disais tout à l'heure, et d'autres choses voilà, qui ont été faites pour les professionnels et qui sont intéressantes à utiliser.
On vous remercie.
Merci.